Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
Quand j'ai commencé à porter le voile, c'était une bonne chose pour moi. Mais par contre, c'était pas facile. C'est-à-dire, quand je vais dans le métro, il y a des vieilles femmes qui me poussent ou genre, il y a les gens qui veulent faire semblant qu'ils passent à côté de moi, mais en fait, ils veulent tirer mon hijab, subhanallah. Tu vois, il y a des petites choses comme ça que je ne comprends pas. Et avant, je ne sentais jamais ça.
Dans cet épisode, j'accueille Güzelya Marisova. Güzelya est une Ouïghour originaire du Kazakhstan. Elle a acquis la nationalité française pendant ses études en France, parle 5 langues couramment et elle est double championne du monde de taekwondo. Après une courte expérience professionnelle en France, elle décide de s'orienter vers la finance islamique en Malaisie, puis dans un accélérateur de start-up en Indonésie. Actuellement basée à Jakarta, elle a créé sa propre marque de vêtements pour bébés, éco-responsable, souhaitant proposer des alternatives au coton importé de Chine, où nos frères et sœurs Ouïghours sont persécutés.
80% de coton du monde vient de Chine, et 90% de ce coton vient de Xinjiang, subhanallah. Et imagine, tu as quelle quantité, imagine combien de Ouïghours sont forcés à faire ça. Et ça m'a poussé de créer quelque chose qui ne sera pas connecté avec la Chine, qui va en fait...
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Güzelya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, Abdelrahman.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, tout se passe bien. Et toi?
Super, écoute. Tu nous parles de Jakarta.
C'est ça.
Tu as parcouru un long chemin avant d'arriver à Jakarta. On va revenir sur ce parcours. Mais je te propose pour commencer de te présenter.
Oui, je m'appelle Güzelya Marisova. Je suis entrepreneur à Jakarta et aussi un consultant en stratégie, spécifiquement dans les industries des startups, startups digitales. J'habite à Jakarta et j'ai commencé mon entreprise l'année dernière qui est spécialisée dans les vêtements éthiques et durables pour les enfants, spécifiquement les bébés. Voilà. Et après, moi, je suis française de nationalité, mais je suis nègre, j'ai grandi au Kazakhstan, mais d'origine ouïghour. Du coup, tout ce qui est mon origine, c'est un peu compliqué. Mais après, voilà.
Ok, on va revenir dessus. Tu as grandi au Kazakhstan. Tu es resté combien de temps là-bas?
Jusqu'à mes 17 ans, j'ai vécu au Kazakhstan. Après, bien sûr, j'ai voyagé beaucoup aussi à cause du travail de mes parents, mais c'était majoritairement au Kazakhstan avant que j'ai complètement déménagé en France.
Ok, je l'ai appris quand on a eu le coup de téléphone il y a quelques jours. Mais la population ouïghour, enfin, je pensais qu'elle était principalement basée en Chine, dans l'ouest de la Chine, mais en fait, pas du tout, c'est une région plus grosse que ça.
Bien sûr. En fait, les Ouïghours, ils sont bien évidemment concentrés sur cette région qui s'appelle aujourd'hui Xinjiang, mais en anglais, on dit East Turkestan, le Turkestan de l'Est. Il est majoritairement ouïghour, mais après, on a aussi plein de pays en Asie centrale, comme la Russie, où on a plein d'Ouïghours de diaspora. Après, bien évidemment, avec la colonisation continuelle de la Chine, de cette région, plein d'Ouïghours, ils sont partis dans les 1990, je pense, majoritairement aux États-Unis. Et aujourd'hui, on a aussi une très grande diaspora aux États-Unis. Même en France, on a maintenant plus d'Ouïghours qui viennent grâce au support du gouvernement français des causes des Ouïghours. Mais ce sont majoritairement des étudiants qui sont en France. Oui. Les familles et la diaspora des générations maintenant qui sont nées et grandies, on trouve vraiment beaucoup dans les pays anglophones.
D'accord. Et du coup, ils gardent ils ont toujours le passeport chinois?
Non, je pense que dans leur cas, en fait, si ce sont les étudiants, tu veux dire les étudiants en France?
En général, ouais, enfin les étudiants et les étudiants diaspora, ouais.
Oui, ça dépend en fait. Si ce sont des étudiants, ils sont toujours chinois, mais après, bien sûr, ils essaient de faire tout, trouver le travail pour vraiment rester en tant qu'immigrant, bah, avoir peut-être un carte de séjour ou et après comment on dit acquérir la nationalité de pays où ils sont, ou bien majoritairement ils sont des réfugiés. Et quand ils sont des réfugiés, ils n'ont plus de passeport chinois. Ils travaillent, ils fonctionnent avec un document qui s'appelle genre travel document ou document de voyage, voilà, quelque chose comme ça. Mais ça ressemble au passeport, mais ça donne pas la nationalité encore, mais ça donne une petite liberté de déplacement au niveau régional aux réfugiés.
D'accord. Ok. J'ai une question d'un des auditeurs ou une auditrice qui demande c'est quoi la situation des Ouïghours au Kazakhstan? Est-ce qu'ils vivent ou ont vécu des oppressions là-bas également? Ou rien à voir?
Oui. Rien à voir avec la Chine, bien évidemment, parce que tout d'abord, les Kazakhs sont, on va dire, les frères et sœurs des Ouïghours, parce qu'ils font partie du même groupe turcique. Et du coup, il y a plein de similarités dans la culture et bien évidemment dans la religion aussi. À part ça, Kazakhstan, il est très amitié vers la culture ouïghour. Les Kazakhs, ils adorent la cuisine ouïghour. On a plein de, justement, démonstrations de différentes cultures qui habitent au Kazakhstan. Et bien évidemment, les Ouïghours font partie de ça. On est toujours présents. On a des musées, des assemblées, des théâtres ouïghours. Du coup, je pense qu'en termes de vraiment la conservation de la culture ouïghour et son développement même, le Kazakhstan, il est très, très. Il soutient très bien. Mais à ce qui concerne, on va dire, la discrimination peut-être sociale, on va dire, le mélange entre les Kazakhs et les Ouïghours, bien évidemment, ça ne se passe pas autant facilement. C'est-à-dire, les Ouïghours, ils sont majoritairement dans leur propre cercle. Ça ressemble un petit peu aux États-Unis, tu vois. It's a
Oui.
melting pot, genre on est mélangé, on a beaucoup de gens là-bas de différentes cultures et différentes religions, mais on se mélange pas autant.
OK.
Voilà. Voilà. Du coup, c'est ça ce que je pourrais dire en termes de la différence. Après, avec la situation en Chine, ma connaissance est justement est basée sur les médias ouïghours. Et bien sûr, mes amis ouïghours qui viennent de Chine, en fait, qui partagent vraiment ce qui se passe avec leurs proches. Comme moi, je n'ai jamais été là-bas et je connais pas, en fait, la vraie. En fait, je n'ai jamais vu la vraie situation avec mes propres yeux. Mais après, comme je connais les gens avec ses proches et même les gens qui étaient persécutés personnellement, bien évidemment, tu vois, ça n'a rien à voir avec le Kazakhstan.
Oui, ok. Là, j'ai vu sur Wikipédia, il y a 70% de la population kazakh qui est musulmane.
C'est ça.
Population musulmane, machin. Du coup, revenons un peu sur ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à partir du Kazakhstan et à venir en France?
Oui. En fait, il y a eu quelques opportunités on va dire, professionnelles pour ma mère spécifiquement. Elle a travaillé dans la culture et du coup, c'était vraiment spontané, en fait, le voyage. C'était bien évidemment aussi connecté avec quelques autres raisons. Par exemple, j'avais fini mon école et je recherchais, en fait, les universités intéressantes. Mon intérêt spécifiquement tombait sur Canada, mais c'était University of Toronto à l'époque et qui m'intéressait parce que j'avais fini une école scientifique et je voulais faire mes études en mathematical modeling. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il faisait à l'Université de Toronto. Mais après, quand on est venu en France, ma mère, elle a eu cette opportunité. Et du coup, elle m'a dit, genre, il faut absolument qu'on reste parce que voilà, ça va être difficile de. Enfin, il faut faire un choix. Du coup, à l'époque, j'étais absolument triste que je suis en France, en fait, parce que je voulais pas. Mais tu vois, parfois, il y a des choses qui se passent et les parents, ils décident pour leurs enfants. Mais du coup, j'ai décidé de faire ce que j'aime bien, c'est-à-dire, tout d'abord, c'est le taekwondo. Je pratiquais taekwondo au niveau professionnel au Kazakhstan. J'étais dans l'équipe nationale, etc. Et j'ai commencé, j'ai trouvé un club à Paris au 19e.
Ok.
Et puis, oui, et puis voilà.
Trop bien. Juste par rapport à ta venue en France, tu avais quoi comme image de la France avant de venir?
Je savais que c'était pas spécifiquement Paris, on va dire. C'est un pays où tout le monde va y aller, au moins une fois dans leur vie. Mais c'est étonnant quand même, mais je n'ai jamais rêvé d'être en France, en fait. Moi, j'avais vraiment des différents objectifs dans ma vie. Tu vois, et la France, justement, voilà. Et après, bien évidemment, on a des stéréotypes que tous les Français, ils mangent des escargots. Comment on appelle ça,
Les
the
grenouilles, ouais.
frogs, les grenouilles, etc. Tu vois, et bien évidemment, je connaissais déjà de la cuisine française, mais je pensais qu'en France, ils aiment bien majoritairement ce forme de délicatesse, tu vois. Mais après, bien évidemment, quand je suis venue, j'ai découvert que c'est occasionnel, en
Oui. Et par rapport
ouais.
à la vie en France, tu avais des a priori spécifiques ou par rapport à, je sais pas, le mode de vie
Oui, un petit peu, je connaissais par exemple, alors, au niveau social, tu vois, je savais que il y a plus d'opportunités aux gens de classe basse ou moyenne de vraiment tu vois, faire les études, par exemple, tu vois, parce que c'est un pays social quand même. Ça, je pensais que c'était bien, mais. Je connaissais aussi un petit peu à propos de la discrimination des musulmans en France. C'est assez connu à l'international que la France a, comment dire, il y a les régulations contre le hijab ou dans les espaces publics ou bien le niqab. Et ça, tout ça, on le savait. Mais à l'époque, en fait, je portais pas le hijab et le niqab. Et j'étais religieuse, mais c'était pas. Je pensais pas porter encore à ce genre de vêtements. Du coup, ça me touchait pas trop. Quand je suis venue, bien sûr, tu vois, par exemple, je ne fais pas de bise au mec, tu vois, et il me demande pourquoi. Après, j'explique, en fait, je suis musulmane et j'ai des préférences de ne pas le faire parce que c'est conseillé de ne pas le faire. Et par exemple, je ne mange pas. Du porc ou des choses qui ne sont pas certifiées halal, et je dois aussi expliquer. Quand ça commence à être comme ça, quand j'explique tout le temps mes choix, mes décisions de faire ou pas faire quelque chose, les gens, ils commencent à me regarder différemment, en fait, malheureusement. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti cette discrimination dont tout le monde parle à l'international.
Oui, d'accord. Ah, peut-être que ça a eu des effets sur ton envie de départ plus tard, je ne sais pas, on y reviendra, mais du coup, tu as fait tes études universitaires à Paris.
C'est ça. J'ai étudié les deux, ma licence et mon master à l'université de Vincennes-Saint-Denis, Paris 8. En fait, c'était très marrant aussi la raison pour laquelle j'ai fini par Paris 8. À l'époque, j'avais majoritairement des amis français qui étudient la médecine, en fait. Et ce sont des filles et des garçons qui sont très intelligents, tu vois. Du coup, bien évidemment, je demande leurs avis en termes des universités publiques, lequelle université est bien. À quel département est beaucoup plus avancé, etc. Et personne ne me conseille Paris 8. Ils me disent que c'est en fait, c'est pas bien, il y a plein d'immigrants, plein de réfugiés. Et quand j'entends ça, tu vois, je comprenais que vraiment c'était genre gangster university et il faut absolument pas y aller. Mais ce qui s'est passé, c'est que avant que je suis devenue. En fait, je suis. Juste pour expliquer un petit peu ma régularisation, pardon, en France, c'était un petit peu. C'était vite, en fait, pour acquérir la nationalité française, mais c'était. C'est quand même la bureaucratie, n'est-ce pas? Ça prend du temps pour avoir tel ou tel papier et il y a des étapes. Et à l'époque quand j'ai postulé aux universités, c'était l'étape où j'étais en attente de ma carte de séjour permanente.
Du coup, mais après, j'ai le papier qui justifie le fait que je vais avoir dans un mois ou dans quelques semaines ce papier, tu
Oui.
vois, cette carte de séjour. Et j'ai quand même postulé aux universités et il y avait la Sorbonne, il y a toutes les universités qui sont assez bonnes en termes de business et les langues. Parce que ça, ce que j'ai décidé à faire, comme je parlais pas un très bon français, j'ai pensé que si je vais faire les études dans le business, ça pourra m'améliorer mes compétences linguistiques. Et quand j'ai postulé, tout était bien, en fait. J'étais une très bonne étudiante au Kazakhstan aussi, en plus dans une école scientifique, mais ma moyenne était très bonne. Tout le reste était très bien, en fait. En plus, je parle plusieurs langues, etc. Et je suis championne
National.
au niveau. Ouais, voilà. Du coup, j'étais presque acceptée. À la fin, quand je suis venue de vraiment donner mes papiers, ils m'ont demandé ma carte de séjour permanente. J'ai dit, je vais l'avoir dans 2 semaines, en 3 semaines. Et ils m'ont dit, désolé, mais non. Vous êtes considéré, je pense pas qu'il m'a dit illégal, mais il m'a dit vous n'êtes pas encore considéré
Régulariser.
résidente, ouais, voilà, régularisée, quelque chose comme ça, je me souviens plus, mais c'était vraiment méchant en plus, agressif, tu vois, comme si j'étais pas un humain, et j'étais choquée. Et comme moi, bien évidemment, je ne suis pas venue pour des raisons économiques ou quelque chose comme ça, ça touche. What is called it? It touched my pride,
La fierté.
Voilà, ça touche ma fierté, tu vois, je pourrais pas accepter cette manière de discussion. Et après, j'étais un petit peu plus émotionnelle, je pouvais plus continuer en français, j'ai changé en anglais, et après j'ai entendu me dire, vous n'êtes pas en Angleterre, partez dans un pays anglophone si vous savez pas parler français. C'était incroyable
Wow.
quand même. Et après ça, je me suis dit, je vais jamais postuler à toutes ces facs majoritairement blancs, tu vois, où justement on discrimine des gens qui sont venus, mais qui ont le potentiel. J'ai compris, en fait, j'ai compris la première problématique que j'ai rencontrée plusieurs fois en France. Et voilà, c'était comme ça que j'ai décidé d'aller à Paris 8. Et quand je suis allée à Paris 8, heureusement, ils sont payés attention plus tôt. Ils ont payé attention plutôt à mon parcours, à mes compétences, que le fait que je vais avoir le papier dans 3 semaines. Et après ça, ce n'était pas un problème pour eux, parce que si je vais l'avoir en 3 semaines, si bon, je suis acceptée, mais sinon, après, c'est pas, après ils ne peuvent pas. Ça, je comprends. Mais comme je vais l'avoir, j'avais pas peur. Du coup, j'ai décidé d'aller à Paris 8. Et c'était mon choix, vraiment. Parce que Paris 8, il a eu vraiment cette mentalité plutôt ouverte. Il y a eu plein d'étrangers. Et alhamdoulilah, je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'avais entendu à propos de Paris 8, que ce n'était pas une bonne fac et tout. Tout dépend d'étudiants. Même si tu étudies à Harvard, mais bien évidemment, pour aller à Harvard, c'est difficile. Mais quand même, si tu es quelqu'un qui s'en fout des études, tu ne vas jamais réussir, n'est-ce pas?
Ouais.
Après, si tu es quelqu'un qui est intéressé par ce que tu veux faire, par ton futur, bien évidemment que tu vas mettre d'efforts et utiliser toutes les opportunités que ta fac te propose. Et ça, ce qui s'est passé avec moi, alhamdoulilah, j'ai vraiment été active dans la vie étudiante, spécifiquement pour le département des langues slaves, parce que comme russophone, j'avais déjà un bon niveau bien sûr, en fait, c'est considéré comme ma langue maternelle, en fait, parce que j'ai étudié à l'école russe, etc. Et j'ai aidé au plein de programmes en langue russe, accueillir des étudiants, pas des étudiants, mais on va dire comment on appelle ça, des j'ai oublié le mot, mais en fait, il y a eu des équipes depuis les universités russes qui venues à visiter et aussi faire des présentations ou des
OK.
conférences à notre fac ou bien à Paris. Des délégations, voilà, des délégations russes dans notre université, par exemple. J'étais une des organisateurs, etc. À part ça, la dernière année de ma licence, j'ai participé au programme MICEFA. C'est franco-anglais, en fait. C'est un programme d'échange. Et j'ai étudié un an à l'université de Connecticut,
Aux
où j'ai
États-Unis.
pris vraiment le cours, oui, aux États-Unis, les cours de stratégie de management, qui étaient vraiment, vraiment intéressants. Et ben, c'était en fait aussi des cours qu'on ne propose pas dans les facs françaises. On les propose dans dans les écoles de commerce, je pense, mais bien évidemment, dans les facs françaises, il n'y en a pas beaucoup ce genre de cours. Du coup, j'essaie vraiment de profiter des cours qui ne sont pas proposés chez nous. Et alhamdoulilah, c'était une très belle expérience. Et en fait, l'année que je suis partie après l'année que je suis devenue champion du monde en représentant la France
D'accord.
dans le style des arts martiaux qui s'appelle WASCO, World All Style Combat Organization. Et après ça, j'ai décidé de commencer à porter le voile. Du coup, partir aux États-Unis, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Ce n'était pas seulement un nouveau pays et les nouvelles opportunités, mais aussi je viens de commencer à porter, je venais de commencer à porter le voile. Et voilà.
Ok, ouais, j'ai plein de questions là, je voulais pas t'interrompre, mais.
Désolée, non. C'est moi qui
Non,
dois
c'était
t'aider.
tellement intéressant que j'ai pas osé t'interrompre. Tu parles combien de langues, Guselia?
Couramment, je parle cinq langues. Et à part ça, je parle encore cinq, mais ce n'est pas parfait. Du coup, je ne les considère pas trop.
Impressionnant. Du coup, tu parles le français, le russe, le ouïghour, l'anglais
Le kazakh,
et le kazakh.
c'est mes cinq langues,
Ok,
oui.
trop bien. Quand tu es venu en France, tu avais déjà la décision que tu voulais avoir la nationalité française?
Non, absolument non, parce que je pensais que c'était ma transition, en fait, depuis Kazakhstan. La France était le pays de la transition, parce que c'était pas mon choix, c'était le choix de ma mère. Mais je suis quelqu'un qui croit, en fait, je vais le dire en anglais, après je vais essayer de traduire, sinon je sais très bien que tu pourras le traduire. Whatever Allah plants you, be fruitful. Essaye d'utiliser les opportunités que tu trouves dans cette place. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a mis sur ce lieu ou sur cette situation. Du coup, il faut absolument que tu essaies d'utiliser les opportunités que tu trouves ou les problématiques et les tourner vers les opportunités et faire quelque chose de bien pour toi. Ça, ce qui s'est passé avec moi. Il fallait absolument que je commence à aimer la culture française. Soit c'est une culture française, genre on va dire française d'origine française ou bien française, on va dire musulmane, tu vois, parce que c'était aussi nouveau pour moi. Tagine marocain, par exemple, je l'ai essayé la première fois en France, tu vois, ou bien le couscous algérien aussi. Je ne jamais connaissais ce genre de choses, mais quand je suis venue en France, ce n'était pas seulement l'introduction à la culture française qu'on est depuis les journaux de mode, tu vois, mais c'était aussi la vraie culture avec qui on vit, la diversité. Du coup, pour moi, c'était vraiment ouverture de monde incroyable et j'étais très heureuse et je voulais vraiment l'embrasser, embrasser cette culture. Et ça m'a pris pas énormément de temps parce que je suis une personne d'esprit ouvert et alhamdoulilah, c'était très engageant, très intéressant. Et oui, du coup, quand c'est comme ça, tu te dis, écoute, là, je me sens bien, pourquoi pas de pas essayer avoir la nationalité française. Bien évidemment, en France, je me sentais assez confortable à l'époque parce que je ne portais pas le voile, comme je t'ai dit. Tu vois, c'était très marrant, en fait. Peu importe qui je rencontre, ils me regardent, ils me disent, oh, t'es très mignonne, j'aime bien ton accent, tu viens d'où? T'es japonaise ou t'es coréenne ou t'es chinoise ou t'es genre moitié française, moitié quelque chose. Et après, je regarde tous ces gens-là, après je dis, Subhanallah, la personne connaît les Uyghurs. Il faut que j'explique tout ça. Et à part ça, j'aime pas trop quand les gens me disent que je fais coréenne ou je suis japonaise ou chinoise, tu vois, parce que ça veut dire qu'ils sont très limités en termes de ce qui est asiatique. Ils connaissent rien. Et après, je ne suis pas tout ça, tu vois. Du coup, voilà. Du coup, c'était un petit peu bizarre et je voulais vraiment, j'aimais vraiment ce que les Français musulmans faisaient, bah, c'est-à-dire par exemple, bah, comme toi justement, tu es d'origine algérienne, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Et j'ai beaucoup d'amis aussi comme toi et quand les gens ils leur demandent tu viens d'où, après ils disent bah, je suis français, tu veux quoi? C'était très, bah, j'aimais ça parce que comme ça tu ne dois pas expliquer, tu vois. Et après, je me suis dit, oui, je pense que ça pourrait être pas mal, tu vois, d'avoir la nationalité française pour que j'explique plus aux gens que, ben oui, je viens de quelque part, mais après, le plus important, c'est que je me trouve ici parce que je suis française et c'est tout. Oui, ben après,
Ouais, OK.
c'était vraiment, voilà, c'était plutôt à utiliser les opportunités que j'ai eues. Et après 2 ans de ma résidence en France, je suis déjà devenue française, alhamdoulilah.
2 ans, super rapide. Et du
C'est ça.
coup, on peut faire le lien avec ta compétition de taekwondo internationale, championnat du monde.
Oui.
Raconte-nous un peu l'histoire de comment est-ce que tu es devenue championne du monde.
Oui, bah, j'ai commencé à faire de pratiquer le sport pratiquer le sport spécifiquement les arts martiaux à l'âge de 11 ans. Et à l'époque, quand j'ai commencé la raison pour laquelle j'ai commencé, en fait, et que dans ma vie, il y a eu un peu de changement. Mon père, il était parti à l'étranger pendant très longtemps. Bah, ça faisait plus que le temps normal qu'il passait à l'étranger. Et je commençais à me sentir pas protégée, en fait. Bien sûr, j'avais ma mère avec moi et je suis la plus grande dans la famille. J'ai un petit frère aussi. Et mon petit frère, on a 3 ans de différence, mais je sentais comme si, comme il n'y a pas de père, on est seul, on n'est pas protégé, ben quelque chose de comme ça. J'avais pas de confiance en soi, je me sentais faible. Et à l'école, un jour, on a eu une démonstration de l'équipe de taekwondo avec, tu sais, comment on appelle ça, the breaking the bricks, et des. Ah ben en fait, tout ce que tu connais avec la démonstration des arts martiaux, avec tous ces trucs fancy que tu regardes et tu te dis, waouh, c'est cool, j'aimerais bien le faire, tu vois. Et quand on a vu tout ça, je réfléchissais pas trop comment c'était cool ou quelque chose comme ça. Je réfléchissais plus en termes de faisabilité. Quand je voyais tout ça, je me disais, ah mais physiquement, c'est hyper faisable, c'est pas quelque chose de. C'est pas une magie. Tout le monde peut l'apprendre. Et c'est pour ça que je suis venue au club de taekwondo, en fait. Je suis venue et après, je portais les lunettes. J'étais vraiment nerdy girl parce que j'aimais trop les sciences et mon style un petit peu correspondait aux clichés qu'on voit dans la télé. Et mon coach, il me regarde et me dit, ah, toi, tu veux faire du taekwondo? J'ai dit oui. Il me dit, pourquoi? Ben, je pense que je peux. Et du coup, il me dit, oui, ben, entre. Et subhanallah, ben, je pense que c'était pas juste que je peux, j'étais aussi souple depuis mon enfance. Je pense que ça m'a aidé aussi. En très vite, je suis devenue sentir senior dans son classe et après dans son équipe. Et après 3 mois de pratique, j'ai déjà gagné une médaille d'or dans la compétition, comment on dit, compétition de ville.
OK,
De
régional.
ville, voilà, régionale. Après ça, le président de fédération, il a trouvé que j'avais un talent, quelque chose comme ça. Après, il m'a invité dans les
Potentiel.
entraînements, voilà, dans les entraînements, dans les différents clubs avec lui. Et voilà, c'est comme ça, j'ai commencé à monter, monter. Et alhamdoulillah, après 1 an, j'étais déjà dans l'équipe du Kazakhstan chez les teenagers déjà champion du Kazakhstan. Et pendant 10 ans, voilà, j'étais champion du Kazakhstan. Chaque année, je gagnais ma division et j'étais champion du monde absolu. Mais la seule chose que j'ai pas pu faire, c'est partir à l'étranger pour les compétitions internationales en représentant le Kazakhstan parce que tout simplement au Kazakhstan, le gouvernement, il ne supportait pas ma fédération spécifiquement. C'est-à-dire ma fédération, elle faisait partie de la fédération américaine qui s'appelle Junri Taekwondo. Juste en bref pour te donner un petit peu de compréhension des fédérations de taekwondo dans le monde. Il y en a plusieurs. Et pourquoi il y en a plusieurs? Parce qu'il y a eu des masters, des grands maîtres, en fait, des grands maîtres de taekwondo depuis la Corée, qu'ils avaient immigré dans les différents pays. Et les plus grands, c'est Canada, après, c'est les États-Unis. Ben en fait, c'est les trois qui sont les plus grands. Et après, il y en a aussi dans Corée de Nord, bien évidemment, Corée du Nord et Corée du Sud. Et la fédération qui est olympique, c'est celle de Corée du Sud. Et les autres trois fédérations, ils ne sont pas considérés, en fait, pour les Jeux olympiques. Du coup, les gouvernements, ils ne le supportent pas nécessairement. C'est plutôt, ils fonctionnent plutôt comme des fédérations, on va dire, peut-être commerciales ou bien self-sustained, en fait. Ils doivent
Indépendante.
voilà, indépendants, ils doivent se financer indépendamment aussi. Comme à l'époque, ils n'avaient pas aussi un fonds qui soutient les jeunes talents, malheureusement, je n'ai pas eu d'opportunité de partir à l'étranger. Mais bien sûr, les enfants, ben, qu'ils ont eu des parents plutôt riches, ils ont pu bien sûr partir, mais ils n'ont pas nécessairement. Ils n'ont pas pu gagner nécessairement, bien sûr, mais après, tu vois, c'est juste, voilà, c'est juste vraiment l'accès à ce championnat. Voilà, comme ça, la dernière année que j'ai participé au championnat du Kazakhstan, c'était en 2018, ah non, 2012, pardon, 2012, et c'était justement l'année quand je suis partie en 2011, pardon, j'ai oublié, mais c'était l'année quand je suis partie en France. Et après, j'ai passé 2 ans de m'entraîner avec un club parisien. Je suis toujours, tu vois, je suis toujours content et je veux pleurer même quand je pense à mon club en France parce que c'était vraiment touchant en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je ne parlais pas français du tout quand je suis venue en France. Tu te rends compte? Et je parle seulement anglais et je vois qu'il y a un club de taekwondo. J'entre, bah, je vois les horaires. Je viens pendant les horaires et je demande est-ce que je peux parler avec le coach. Il s'appelle Rachid Ouzour, d'ailleurs un très bon coach en France. Il est algérien aussi, d'origine algérienne. Et du coup, je vois Rachid et je dis excusez-moi, est-ce que je peux parler avec vous? Il me dit oui, allez. Après, est-ce que vous parlez anglais? Il me dit un petit peu. Et du coup, brièvement, j'ai dit. Je suis champion du Kazakhstan absolu. C'est ça ce que j'ai dit. Ben, c'est vraiment faux. Parce que je ne peux pas lui montrer mes compétences quand je viens dans son club comme ça, comme un visiteur, tu vois. Du coup, je dis, je suis champion du Kazakhstan absolu. Mais je suis en France maintenant et je n'ai pas de club. Est-ce que je peux m'entraîner avec vous? Il me dit, oui, ok, tu viens. Après, voilà, je suis venue et. Après, il a vu mon niveau, bien évidemment, et du coup, il m'a aussi conseillé deux, trois. Il m'a séparé de club général pour s'entraîner avec les seniors. Et alhamdoulillah, c'est lui qui m'a préparé pour le championnat du monde en Italie, chez Wasco, où je suis allée pour représenter la France. Et c'est comme ça que je suis
Donc tu
devenue
as représenté
championne
la
du monde.
France sans avoir, sans être française, sans avoir
Sans être
le
française,
passeport.
subhanallah. Oui.
OK.
Pourquoi? Parce que déjà, j'ai eu la qualification depuis le Kazakhstan et j'avais pas le. Et comme en Kazakhstan, personne ne me soutient, c'est moi-même qui me soutiens, j'ai pensé que pourquoi pas de ne pas essayer de représenter la France, en fait. Et comme je m'entraîne dans un club français. Du coup, quand j'ai expliqué la situation aux organisateurs, ils connaissent très bien ma transparence, en fait, que je veux pas, ils me connaissent aussi, en fait, comme une personne. Ils m'ont dit que, comme maintenant tu vis en France, tu as la résidence et en plus tu t'entraînes depuis la France, etc., c'est bon, tu peux représenter la France. Mais après, bien évidemment,
Okay.
ils peuvent pas, comment dire, avoir. Non, me officialiser en tant que Française, bien évidemment. Il y a toutes les. En fait, c'est une autre chose. Mais après, quand je suis rentrée en France après le championnat du monde, avoir, alhamdoulilah, gagné 2 médailles d'or, j'ai écrit une lettre, en fait, quand j'ai demandé la nationalité en expliquant tout ça. Alhamdoulilah, c'était presque automatique l'acquisition. de nationalité
Ok.
française.
D'accord, trop bien. Bah, franchement, tu l'as gagné ta nationalité. C'est
C'est ça, en
impressionnant.
fait. Subhanallah.
Littéralement. Et du coup, tu me disais, on en parlait avant, tu me disais que même pour pouvoir participer à cette compétition, tu n'avais pas de sponsor
C'est
et
ça.
tu as dû te financer toi-même.
Oui, en fait, il faut soit avoir un sponsor, soit avoir son argent compté dans un sport comme le mien. En fait, c'est taekwondo classique, mais ça dépend d'une autre fédération qui est une fédération américaine. Et là, WASCO, c'est organisé par la fédération italienne, World All-Star Combat Organization. Et du coup, le financement, c'est indépendant, comme j'avais expliqué au début. Et pour ne pas perdre le temps et aussi me stresser en termes de l'argent qui va venir de la part de quelqu'un que je ne connais pas, j'ai décidé de travailler en même temps, en temps partiel. Avec mes études, je faisais mes études, c'était ma première année de licence. En temps partiel, je travaillais à l'aéroport dans les duty free. Du coup, 24 heures de ma vie, je dormais peut-être 4 heures. Oui, subhanallah, c'était ma vie pendant un an. Et alhamdoulilah, j'ai eu assez, même un peu plus de savings. Et avec ça, j'ai pu partir au championnat du monde.
Trop bien. Et du coup, tu as dit deux médailles d'or.
C'est ça.
C'était la même compétition ou c'était deux années différentes?
Non, c'était la même compétition, mais chaque jour, il y a des différentes spécialités qui sont pratiquées. Le premier jour, c'était point sparring. Du coup, c'est un sparring où, par exemple, une touche et après, il vous arrête et il décide soit tu as un point ou pas. Du coup, c'est ce genre de sparring. Et le deuxième, c'est le continuous sparring. Du coup, c'est tout ce qu'on voit dans la télé où on a 2 minutes, 3 rondes avec 2 minutes et on ne s'arrête pas.
Ok, pas trop bien. Et du coup, juste après ça, donc ça c'est en parallèle de tes études,
C'est
en
ça.
parallèle tu travailles, tu t'entraînes, tu réussis à avoir la médaille d'or. Pas longtemps après, tu acquiers la nationalité française et tu pars étudier, tu fais un an d'échange aux États-Unis.
Avant qu'on parte plus loin, comme c'est Muslim Makers un podcast, j'aimerais bien aussi mentionner plein de petites choses magiques que j'ai rencontrées pendant toutes ces expériences, tu vois. Par exemple, l'acquisition de nationalité, c'était très marrant. En fait, je portais pas le voile à l'époque, comme je t'ai déjà dit. Et c'était justement, tu sais, la tragédie de Charlie Hebdo qui s'est passée à la fin de 2015. Ah non, pardon, à la fin de 2014. Et c'était justement l'année quand je suis devenue championne du monde. De 2015, début de 2015, j'attendais la réponse depuis ma nationalité. Mais je connaissais très bien que si je portais le voile pendant le rendez-vous de nationalité, peut-être je pourrais pas l'avoir, par contre. Mais après ça, tragédie Charlie Hebdo, tout ça, tout le monde déteste les musulmans, etc. Et du coup, je commençais à me sentir vraiment mal en tant que musulman. Je pense que pas seulement moi, mais je suis sûre que toi aussi et tous les autres musulmans français se sentaient mal. Je ne savais pas quoi faire. Je me sentais comme si c'est moi qui ai fait ça. En fait, c'est pas parce que ce n'est pas à cause des gens qu'ils ont fait ça. C'est plutôt à cause des autres qui disent que ce sont les musulmans qui l'ont fait. Parce que ce n'était pas la vérité. On sait très bien que les actes terroristes, ils sont condamnés par toutes les religions et bien évidemment par la religion musulmane. Et je me sentais tellement mal et je me disais, subhanallah, je pourrais jamais vivre ma vie heureusement si je vais toujours écouter que les autres gens vont dire. Si je suis ouïghour, je suis terroriste. Si je suis musulman, je suis terroriste. Je m'en fous, je me suis dit, peu importe, je vais mourir en tant qu'une personne heureuse, c'est-à-dire de faire ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que je l'écoute et je. Quand I'm obeying his command.
J'obéis.
Voilà, j'obéis sa commande. Et du coup, le jour d'après, je commence à porter le voile, subhanallah. Mais c'était pas vraiment. J'ai pas planifié, j'avais même pas de voile à la maison. En fait, j'avais quelque chose, mais c'était pas trop bien, en fait. C'était pas stylé, en fait, comme on vient stylé, tu vois, stylish hijab. C'était pas du tout ça. Et du coup,
Un hijab pour prier à la maison, quoi.
c'est ça, voilà. Et je le porte. Et après, je vais à la fac et c'est très marrant. Je ne vais pas dire le nom de mon professeur, mais un professeur français-italien très, très marrant, subhanallah. Et il est un petit peu, ben, on voit un petit peu qu'il est, on va dire,
Surpris.
voilà, ben, vraiment surpris en fait. Il ne m'a pas reconnu. Il me regarde, il me regarde, il me dit, mais et je dis, oui, bonjour monsieur. Ah oui, Guzélia, mais c'est incroyable, mais pourquoi vous portez ça? Et j'ai dit, ben, en fait, monsieur, ben, il faut que je vous dise la vérité. Il dit, oui, je vous écoute. En fait, je me suis mariée avec un arabe, il m'a forcé. Après, il me dit, non, mais c'est pas vrai. Je dis, bien sûr que c'est pas vrai, monsieur. C'est ma propre décision, et voilà. Et après, il est choqué, mais il était quand même assez gentil. Après, il a rigolé, tu vois. Mais la raison pour laquelle j'ai dit ça, je pense que c'est la première chose qu'il pense, tu vois.
C'est trop marrant.
Voilà. Et
Bien joué.
subhanallah, après ça, je pense que c'était le 4 février, si je me trompe pas, c'est le 4 février, le jour où je commençais à porter le voile. Et le 17 ou le 12 février, je reçois la lettre depuis comment dire, le gouvernement, disons que l'acceptance de nationalité. Et ils me disent que la décision était prise le 4 février, subhanallah.
Allahu Akbar.
Allah Akbar, t'as vu? Et quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. J'ai dit à ma mère, tu regardes, le premier jour que je commençais à porter le voile, le jour de décision que je suis devenue française, subhanallah. Ouais.
Incroyable histoire, franchement.
Subhanallah, il fallait que je te partage avec toi, parce que c'est vrai que ça, c'est une des choses qui m'a rendue encore plus proche à ma religion et à Allah, subhanallah.
C'est vrai qu'on a souvent l'impression que en prenant telle ou telle décision ou en écoutant certaines choses, on peut penser que, par exemple, le voile, ça peut être assumé qu'on prie, ça peut être assumé qu'on participe pas à tel type d'événement, ou etc. Ça peut être vraiment plein de choses qu'on refuse un telle ou telle offre d'emploi pour telle ou telle raison parce que c'est lié à tel ou tel secteur, etc. Et ben on se ferme des portes et qu'on va se retrouver dans la galère. Mais en tout cas, personnellement, pour moi, et puis pour toi, on peut le voir aussi, on se rend compte que quand on fait les choix pour Allah, Dieu nous ouvre des portes, en fait, qui sont bien plus grandes que celles qu'on espérait avoir.
Exactement.
Barakallah pour ce partage.
Ah ouais.
Du coup, continuons. À ce niveau-là, tu dois avoir quoi, 24 ans, 25 ans, quelque chose comme ça?
23 ans, je pense, 22 ans, 23 ans.
Ok. Tu finis tes études en France?
Oui.
C'était les études en quoi déjà?
En licence, je fais les langues étrangères appliquées en parcours commerce. Du coup, c'est 2 ans intensifs de justement de trois langues, c'est français, anglais, russe. Et ben, des différents cours dans ces langues. Et la troisième année, on a des parcours différents. Et bien évidemment, j'ai choisi le parcours commerce parce que c'était. En fait, il y a eu un peu plus de maths que dans les autres, en fait, parce que étant d'une école scientifique, ça pourrait être vraiment bizarre si j'ai pas d'économie, des choses comme ça. Voilà. Et après ça, comme j'ai dit, cette dernière année, parcours en commerce, j'ai passé aux États-Unis à l'école de commerce de University of Connecticut. Et en rentrant, j'ai continué mon master. Le master, j'ai choisi en management du commerce international. Et c'était aussi avec les trois langues, c'est trilingue en fait le parcours. Pas le parcours, mais le master. Et le dernier semestre de master, j'ai passé en Corée du Sud, à l'université de Hanyang, aussi dans une école de commerce. Et j'ai spécifiquement pris des cours de stratégie de marketing et aussi d'Asian marketing. Parce que le marketing en Asie, on sait très bien que c'est vraiment différent de marketing
C'est clair.
dans les pays occidentaux. C'était très intéressant de rencontrer ben, les acteurs et aussi apprendre leur framework, en fait.
Leur mode de travail, leur
Oui,
mode,
leur mode
ouais,
de travail.
comment ça fonctionne. C'était important pour toi d'aller faire une partie de tes études à l'étranger?
Absolument. Parce que tout d'abord, déjà, la France, comme je t'ai dit, j'ai pensé que c'était une transition. Et pour une personne qui vient dans ce mode, avec cette mentalité, c'est un peu dur de passer tout le temps en France. Il fallait absolument que je change l'environnement pour me sentir, ben, pour rafraîchir. Et aussi, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à porter le voile, c'était, ben, alhamdoulilah, c'était une bonne chose pour moi. Mais par contre, c'était pas facile. C'est-à-dire, quand je vais dans le métro, il y a des vieilles femmes qui me poussent, ou genre, y a les gens qui veulent genre, faire semblant qu'ils passent à côté de moi, mais en fait, ils veulent tirer mon hijab, subhanallah. Tu vois, il y a des petites choses comme ça que je comprends
Subhanallah.
pas, en fait. Et avant, je sentais jamais ça. Et tout le monde pensait que j'étais une mignonne asiatique avec un accent mignon. Et là, je deviens une, je sais pas qui, qui est toujours poussée par des gens, etc. Et même, subhanallah, pendant la réinscription à mon université, il y a eu une fille, bah, je pense que c'est une Française, je pense d'origine aussi. Elle était assise, il prenait mes papiers de réinscription. Et tu sais, quand tu fais l'inscription, la réinscription à ton université, souvent, tu coches une case, si tu es par exemple sportif de haut niveau ou tu fais quelque chose d'important pour leur montrer que tu peux avoir
Ouais.
comment dire, un calendrier un peu différent
Niveau
à cause de ce.
sportif,
Voilà.
niveau 2, je sais plus quoi.
Exactement. Et j'ai coché cette case. Et après, quand il me regarde, il me fait, excusez-moi, en fait, vous avez caché cette case, mais en fait, c'est pour les sportifs de haut niveau. Et après, j'ai dit, oui, c'est ça, je suis sportif de haut niveau. Et après, il me regarde, il me dit, en fait, comment je peux vous expliquer? En fait, les sportifs de niveau, ce sont des gens qui font du sport, mais genre, ils vivent avec le sport, vous voyez? En fait, c'est. En fait, il m'explique qu'est-ce que ça veut dire. Et après, je l'ai écouté jusqu'à la fin. J'ai dit, OK, vas-y, tu vois, montre tes connaissances de ce qui est sportif de haut niveau. Et j'ai écouté. Après, à la fin, j'ai dit, ah, d'accord, je vois ça. Oui, je suis sportif de haut niveau. En fait, je suis champion du monde. J'ai 2 médailles d'or. Vous voulez que je vous le montre? J'étais vraiment. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. J'ai dit que ça, tu vois. Et après,
Ouais.
ah, OK, ah, désolé. Après, je n'ai pas de commentaire. Voilà. Tu fais ma réinscription, tu ne me demandes pas qu'est-ce que j'ai coché ou pas. Je connais très bien.
Ouais.
Mon français n'est pas parfait, mais c'est déjà un niveau assez académique et que je puisse tu vois, avoir une très bonne moyenne dans ma fac. Du coup, tu me dis pas qu'est-ce qui est sportif de haut niveau. Mais c'est ce
Ouais.
genre de discrimination que j'ai commencé à rencontrer. Mais c'est incroyable.
Purée, l'administration française.
C'est ça. Du coup, il fallait absolument que je parte
Ouais.
pour rafraîchir un peu, tu vois.
Ok. Ouais, je comprends. Mais même en dehors de ça, enfin, il y avait ça, mais en dehors de ça, professionnellement, moi, je recommande toujours aux personnes qui ont l'occasion, ou même qui n'ont pas l'occasion, de se provoquer des occasions pour faire au moins une partie de leurs études ou un stage ou quoi que ce soit à l'étranger.
Je
C'est quelque
suis
chose
d'accord avec toi. Oui.
qui est utile à plein de niveaux. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures, ça permet prendre un peu, de s'aérer un peu la tête par rapport à la situation en France. Ça permet de se débrouiller, d'apprendre à se débrouiller un peu tout seul pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ça permet de, franchement, plein de choses. Ouais, plein de choses.
Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, bien sûr que là maintenant, en te répondant à cette question, je me suis concentrée plus aux problématiques sociales que j'ai rencontrées en France. Mais en fait, bien sûr, la raison professionnelle, c'était la première raison. On veut pas. En plus, si je veux faire un commerce international, ça veut dire il faut faire les études à l'international. Et
Oui.
comme il y a plein de des accords bilatéraux avec les universités ou bien les programmes comme l'ICFA qui proposent des échanges de très très bon niveau, peu importe la fac d'où tu viens, même s'il n'y a pas d'accord bilatéral avec par exemple l'University of Connecticut qui est considéré Ivy League, Public Ivy aux États-Unis. Mais l'ICFA, il a une
Ivy
forte
League, c'est
part.
le top, top université.
Oui, c'est ça. Et en fait, pour UConn, bah, c'est l'université où j'ai étudié ma dernière année de licence, il est considéré comme public Ivy. En fait, ça tombe pas sur les privés, mais les résultats sont tellement bons qu'il le considère comme ça. Du coup, voilà, alhamdoulillah, c'était une des meilleures expériences dans ma vie. J'ai pu aussi travailler dans le campus pour vraiment découvrir en fait la vie d'étudiant avec des différents yeux aussi parce que majoritairement des étudiants quand ils partent aux États-Unis c'est vraiment genre partying drinking, et tu vois, genre, peut-être
Ouais,
bien
dans la
sûr
tête.
améliorer leur anglais. Mais pour moi, c'était. Je continuais à faire le taekwondo. J'ai participé dans les championnats là-bas aussi. Je faisais partie d'équipe de UConn. Après, j'ai fait aussi UNESCO Chairs Ambassadors. Du coup, les visites. En fait, on a eu plein d'événements sociaux où on apprenait la langue anglaise aux enfants réfugiés qui ne parlent pas anglais, par exemple. Et aussi, on a visité tout ce qui est Oxfam, UN, et ce genre d'organisation et leur bureau qui était vraiment aussi ouvrant à nos esprits parce que c'est. Ce sont vraiment les organisations qu'on voit dans la télé, on écoute, on lit des livres, mais après on ne sait pas comment ils fonctionnent. Mais quand on les voit, c'est assez impressionnant aussi. Même si dans le monde, il n'y a pas assez de changements grâce à eux. Et après, subhanallah, ma décision de partir en Corée du Sud pendant mon master aussi était connectée avec. Justement, m'ouvrir une autre porte parce que là, c'était vraiment un vrai Occident et là, je voulais vraiment découvrir un vrai Est. Et la Corée du Sud, c'était le choix évident pour moi pour quelques raisons. La première, bien évidemment, taekwondo. Je pratique taekwondo depuis 11 ans et c'est le pays d'où ça vient. Je voulais vraiment découvrir, tu sais, Kuki Wong qui est la maison de taekwondo en Corée du Sud. Je voulais aussi améliorer mes connaissances de langue. Je parlais un petit peu. Du coup, mes autres cinq langues que je considère pas trop, il y a aussi le coréen parce que je le parle un peu, mais c'est pas parfait. Et je voulais améliorer ça. Et aussi, la dernière chose, subhanallah, c'est quand j'étais aux États-Unis, j'ai pris le cours de coréen juste pour voir en fait comment je pourrais le faire. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Et la professeure, elle était très gentille avec moi. C'était une Coréenne qui avait immigré aux États-Unis depuis genre 30 ans, si je ne me trompe pas. Et elle m'a conseillé d'aller en Corée du Sud, en fait, pour si je compte faire un autre échange. Et quand je suis, comme elle était tellement gentille et accueillante, etc., et très supportive, comment dire, supportive.
Soutien.
Oui, voilà, elle me soutient pour y aller. Du coup, voilà, j'ai décidé de faire mon dernier échange là-bas. Et quand j'étais déjà là-bas, elle m'a aussi connecté avec sa famille qui habite dans les différentes villes pour qu'elle m'aide de découvrir les régions rurales en Corée du Sud.
Trop bien. Donc, tu fais cet échange en Corée du Sud, c'était la dernière année?
La Corée du Sud, c'était oui, c'est ça, la dernière année d'études de master. Déjà, voilà,
D'accord.
le dernier semestre.
Ok. Comment est-ce que tu as financé du coup tes années d'études à l'étranger? C'est
Oui.
l'université qui prenait en compte ou tu as travaillé à côté ou...
En fait, j'avais déjà une bourse du gouvernement français. Et c'était. Attends. Oui, c'était pour toutes les échanges, en fait. Pendant les États-Unis, la France put couvrir, je pense, peut-être. En fait, en général, je devais avoir à peu près 20 000 dollars ou 30 000 dollars pour participer à cet échange.
OK.
Les États-Unis, c'est assez cher. Du coup, c'est pour ça beaucoup d'étudiants français, ils partent pas pour un an. S'ils n'ont pas de finances, ils partent seulement pour un semestre. Mais
Oui.
je voulais absolument partir pour un an parce que je voulais bien, bien améliorer mon anglais. Et alhamdoulilah, ça m'a aidé. Du coup, comment financer? Ça m'a pris un an aussi. Je n'ai pas fait cet échange immédiatement. J'ai décidé de travailler un peu plus et partir pour longtemps, pour plus long qu'un semestre parce que. À cause de beaucoup de considérations. Et comment je le fais également, justement, le même travail. J'ai toujours travaillé pendant toutes mes années d'études à Duty Free, à Charles de Gaulle, à l'aéroport. Du coup, c'était mon temps partiel. C'était peut-être 60, 30% de financement que je peux collecter moi-même en travaillant. À 30%, c'était la bourse française et française ou slash universitaire. Et les 10%, c'était l'aide de ma mère. Et après pour la Corée du Sud, c'était juste la bourse, je pense, parce que c'était juste un semestre et du coup, c'était assez.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bourses, hein, d'études. Pour ceux qui. Les gens ne connaissent pas forcément ce genre de
C'est
choses, mais.
ça, c'est ça. Il faut absolument faire des recherches parce que c'est ça ce que moi aussi j'ai fait.
Oui, parce que surtout les universités publiques, ils ne vont pas forcément venir vous voir pour vous expliquer telle ou telle bourse, telle ou telle chose. Il faut vraiment être proactif et faire ses recherches, chercher quelle université est en partenariat ou pas, ou quel type de bourse on peut avoir. Et si ce n'est pas suffisant, moi, j'encourage vraiment à faire comme Guselia, essayer de travailler à côté si possible et pour financer, parce que c'est vraiment, vraiment important.
C'est ça, je suis absolument d'accord avec toi, oui.
Du coup, après ça, tu commences ton. Tu rentres dans la vie professionnelle, en fait, dans la vie active en France.
C'est ça en France. Pendant mon séjour en Corée du Sud, j'ai reçu une offre de stage à Paris pour comment dire, courtage en financement immobilier. Et du coup, j'ai accepté l'offre parce que c'était un nouveau département qu'ils ont ouvert, qui s'appelle, en fait, c'est un département international. Ils ont aussi développé une nouvelle plateforme qui s'appelait Taux Privé. Du coup, c'est pour des acheteurs immobiliers luxueux ou, genre, on va dire, des étrangers riches, comme on dit, qui viennent en France pour acheter à Paris spécifiquement ou bien en Côte d'Azur pour acheter des immobiliers.
L'investir.
Voilà. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un an presque, 6 mois de stage. Tout est très bien passé. Ils m'ont proposé de rester en temps plein, mais je voulais justement. En fait, voilà, c'est ce qui s'est passé. Subhanallah, là, c'est une deuxième histoire de Subhanallah, comment on dit ça, de miracles of Allah,
Miracle.
des miracles, voilà, des miracles d'Allah, Subhanallah. Après 6 mois, ben, j'ai aimé vraiment ce travail. Tout était bien et j'ai même gardé mon voile. En fait, bien sûr, je devais le porter un petit peu bizarrement, c'est-à-dire turban, etc. Mais au moins, c'était OK de le porter au travail. Et alhamdoulillah, j'ai aussi pu élargir mon network en France en rencontrant beaucoup de représentants de banques, parce qu'on travaille avec des banques, n'est-ce pas? Et aussi des différentes agences immobilières. Après, j'ai compris le business model de ce genre de travail. Il est assez facile. Ben c'est justement vendre, n'est-ce pas? Tu aides à quelqu'un à acheter quelque chose, mais après, tu aussi offres le crédit et après, t'as l'argent depuis leur crédit. Mais par contre, on sait très bien en islam que le crédit, c'est pas halal. Le crédit est haram parce qu'à cause de riba, voilà,
Les intérêts.
l'intérêt. Voilà, les intérêts. Et ça m'a commencé à poser des questions. C'est vrai qu'en France, en tant que Français musulman, et même pas en France, même au Kazakhstan, c'est la même chose. La connaissance financière ou connaissance financière islamique, il est très, très basse. Et les gens, ils savent pas, en fait, pourquoi c'est halal, pourquoi c'est haram. Comme c'est la seule chose proposée dans le marché, ils le prennent. Et ça, ce qui se passe, on sait très bien en France et aussi au Kazakhstan. Du coup, je me suis dit, en tant que quelqu'un qui travaille dedans, j'ai commencé à me poser des questions. Comment moi, je vais financer mon immobilier en futur si c'est haram? Ou peut-être c'est pas haram. J'ai commencé à faire des recherches tout simplement sur Google, les alternatives de finance, etc., etc. J'ai trouvé qu'il y a aussi Christian Finance. La finance chrétienne, mais elle ne se pratique pas depuis très longtemps parce que ils l'ont remplacé avec le financement conventionnel. Et aussi en judaïsme aussi, ils ont ce genre de financement qui ne contredit pas aux valeurs du judaïsme, mais ils aussi se pratiquent pas trop. Mais la finance qui se pratique jusqu'à aujourd'hui, la finance alternative religieuse qui se pratique jusqu'à aujourd'hui, c'est la finance islamique. Et le pays qui est tout qui est en avant dans la finance islamique, c'est la Malaisie. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais aller en Malaisie, peu importe quoi, peu importe quoi je vais faire, mais il faut que j'aille. Et en même temps, ben, j'ai informé bien évidemment à ma responsable en disant, écoutez, là, je suis en train de faire une recherche d'un autre travail, d'un stage, mais plutôt à l'étranger, ben, parce que j'aimerais bien apprendre qu'est-ce qui est la finance islamique. Et après, elle était un petit peu choquée, mais elle est à moitié. Canadienne, ben, en fait, elle est canadienne, mais d'origine polonaise et jamaïcaine. Du coup, c'est une personne qui est aussi très internationale, ben, comme moi aussi, et elle a plus de compréhension quand ça touche à tout ce qui est passion, tout ce qui est les valeurs, etc. Et elle était ben, heureuse pour moi que je trouvais quelque chose qui m'intéresse. Et après, j'ai eu plusieurs offres de stage à l'étranger, mais comme j'ai dit, la Malaisie était ma priorité. Et pendant mon interview, je pense que je t'avais raconté un petit peu,
Ouais.
le directeur, il me demande, oui, ok, tout est bien avec ton profil, etc. Mais pourquoi la Malaisie? Tu as fait tes études aux États-Unis, en Corée du Sud aussi, tu viens du Kazakhstan, tu as plein d'autres pays où tu pourras aller, mais la Malaisie, c'est considéré comme un pays émergent, tu veux quand même y aller, j'aimerais bien savoir la raison, elle me dit. Et je dis, bah, écoutez, tout honnêtement, je suis musulmane et ce qui m'intéresse maintenant dans ma vie, c'est la finance islamique. J'aimerais bien connaître les solutions pour mon futur, comment financer ma maison. Mon achat d'immobilier, comment continuer à comment dit, à faire le management de mes propres finances, etc. Et je pense que la question se trouve en Malaisie, parce que c'est le pays qui est en avant en finance islamique. Et après, il me dit,
Ouais.
Mashallah, pendant l'interview, subhanallah, et pendant l'interview, quelqu'un te dit, Mashallah, pour un Français, même si c'est un Français musulman, c'est choquant parce que on sait très bien que c'est pas professionnel de dire ce genre de choses. Et subhanallah, quand ça se passe comme ça, je suis choquée. Et il me dit, écoute, je suis très contente de savoir bah, cette raison. Et inshallah, on t'attend ici. Du coup, en 2018, je pars en Malaisie pour mon stage. Et mon premier jour, le jour d'orientation, il me dit, voilà, comme tu es business associate, tu seras genre, tu vas manager quelques de nos investissements dans les startups. Ben, ce sont des startups. Il y a eu trois startups. Le premier, ça s'appelle Ethos Crowd. Ils sont
Ouais.
d'ailleurs des pionniers dans l'industrie de la finance islamique en Asie du Sud-Est.
Ils sont
Et
connus
même
aussi.
global, oui, ils sont assez connus. D'ailleurs, ils sont basés en Singapour.
Ouais.
Peut-être vous avez entendu. Et la deuxième, c'était Grab Cycle. C'était l'entreprise en fait, qui recycle. Qui font le recyclage de la nourriture. En fait, comment, par exemple, tout ce qui n'est pas vendu dans les supermarchés, ils le revendent vraiment dans les prix bas. Mais tu sais, ici, ça n'existe pas des organisations comme Restaurant du Cœur ou autres, comme en France, où les entreprises, ils peuvent juste faire une donation et cette organisation, par exemple, le Restaurant du Cœur, ils font la distribution aux familles. Ont besoin. Ça n'existe pas encore en Malaisie. Tout le monde doit acheter, malheureusement. Mais ce qu'ils ont fait, ce start-up, ils collectent ces produits et après, ils les ramènent au lieu des gens qui ont besoin, mais qui ne peuvent pas accéder au tel ou tel produit parce que c'est cher. Ils le vendent moins cher. Du coup, c'est bien aussi comme un projet social. Du coup, j'ai aidé à cette startup aussi pour améliorer leur positioning et aussi échanger. En fait, ils créaient un nouvel service aussi. Et le dernier, c'était Angel Gate. C'est déjà un business model qui existait, qui déjà existe en Europe. ils ont déjà, comment, ils sont basés en Europe en fait, mais ils voulaient ouvrir un filiale en Malaisie. Et pourquoi? Parce que ils ont vu l'opportunité dans la finance islamique également, c'est-à-dire les investisseurs musulmans, ils préfèrent d'investir dans les compagnies qui sont sharia compliant, qui sont islamiques, qui ne contredisent pas à leurs valeurs, et aussi dans la manière islamique, c'est-à-dire en utilisant les instruments de la finance islamique. Et du coup, à cause de ces deux choses-là, ils voulaient vraiment quelqu'un qui pourra, comment on dit, build the ecosystem, de construire
Construire.
l'écosystème, voilà, de construire l'écosystème, et connecter les acteurs, voilà, les différents acteurs qui pourra soutenir. Et alhamdoulillah, j'ai eu cette belle opportunité où je participais activement dans tous les trois. Et mon préféré, bien sûr, mes deux préférés étaient Ethos et Angel Gate. Et alhamdoulillah, grâce à ces deux projets, j'ai pu vraiment, je pense, grandir comme une personne, et finalement apprendre ce qui est la finance islamique. Voilà.
Bah super, ce que tu voulais apprendre, tu l'as appris. Ok,
C'est ça.
du coup, tu es resté combien de temps chez cette entreprise?
Oui. Alors, d'ailleurs, l'entreprise s'appelle Mountain Partners. C'est un capital risque basé en Suisse. Ils ont plusieurs aussi filiales partout dans le monde. Et là, c'était malaisien. J'ai resté avec eux pendant 8 mois. Après, j'étais offert de rester en temps plein, continuer à faire ce que je faisais, et même un peu plus. Mais j'ai eu des autres opportunités, subhanallah, qui étaient aussi intéressantes. Du coup, j'étais invitée de travailler en tant que, on va dire, an acting CEO, c'est-à-dire, avant que je trouve un CEO pour mon projet, je crée un nouveau startup. Et le startup, ça s'appelait Fintech Lab. Fintech Lab, c'est une plateforme qui propose les cours éducatifs de la finance islamique, de digital marketing, et aussi de quelque chose. En fait, ça ressemble un petit peu à Nobi en Singapour, si tu connais.
Je connais pas, non.
Voilà. Du coup, c'est juste une plateforme où tu peux trouver tout. C'est comme Masterclass, ce qui est très populaire maintenant à l'international, mais c'est pas avec les gens. C'est plutôt concentré sur ces trois industries: la finance islamique, la halal, tout ce qui est halal industry, and digital. Du coup, digital marketing, développement, blockchain, etc., etc.
OK.
Et du coup, mon travail, c'était vraiment de faciliter de créer cette plateforme. Majoritairement, je travaillais avec des partenaires américains pour des cours, et aussi, bien sûr, le développement de nouveaux cours de la finance islamique pour notre plateforme, parce qu'il y en avait beaucoup, mais comme j'ai dit, comme j'avais dit avant, que la Malaisie était en avant de la finance islamique au monde, c'est très théorique en fait aussi. Il y a des choses, par exemple, que les startups, ils doivent vraiment le traduire dans le langage de startup pour pouvoir exécuter. Et c'était ça le problème. Et du coup, notre plateforme, c'était vraiment de faciliter aux nouveaux entrepreneurs de appliquer les instruments de la finance islamique immédiatement dans leur travail. Voilà, c'était vraiment une solution parce qu'il y avait la demande. Il y en a toujours d'ailleurs. Voilà, du coup,
Oui.
j'ai accepté cette offre parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose de nouveau, quand même connecté avec mes valeurs, et que ça ressemble un petit peu de ce que je faisais. Mais quand même, de créer un nouveau plateforme éducatif, c'était quelque chose d'intéressant et beaucoup plus durable. Voilà.
Comment tu as eu cette opportunité?
Du coup, quand j'ai travaillé à Mountain Partners, j'allais dans beaucoup de networking sessions, à conférences, etc., etc. Et je faisais des présentations. Et chaque fois quand je fais tout ça, apparemment, les gens, ils te voient, tu vois. Bien évidemment, ils te voient. Et il y a des recommandations. Des gens, ils
Ouais.
parlent d'un autre, tu vois, disant, voilà, tu veux commencer à faire ça. il faut absolument que tu travailles avec telle ou telle personne. Et du coup,
Ouais.
subhanallah, les gens me contactent. Du coup, pendant ces 8 mois, mes derniers 3 mois, j'ai eu trois grandes propositions qui m'intéressaient beaucoup dans un autre capital risque, dans un accélérateur, et c'était FinTech Lab aussi. Et bien évidemment, j'ai choisi celui qui est plus proche à moi. Et les gens que j'ai rencontrés par le moyen de ces conférences.
Du coup, le networking, faire des conférences, faire des interventions, c'est ça qui
C'est
t'a
ça.
créé ton image en fait.
C'est ça, en fait.
Donc ça, c'était encore en Malaisie?
C'était encore en Malaisie, oui. Après, dans ma vie, les décisions se passent se basant pas seulement de mes envies, etc., mais se basant par quelque chose qu'on appelle peut-être, comment on dit, tout ce qui était prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Je n'ai jamais pensé de me marier, en fait, avant, aussitôt, spécifiquement. Je me disais, oui, ça va se passer, mais peut-être après mes 30 ans, tu vois, comme en France, souvent, on pense. Et du coup, pendant, c'était toujours une conférence, d'ailleurs, c'était une de mes dernières conférences avant que je commençais mon job chez FinTech Lab. Et c'était une conférence de Global Islamic FinTech Summit. Et je parlais avec mon partenaire de l'Indonésie, qui est un Chinois converti en islam. Il fait aussi une entreprise de finance islamique. Du coup, on avait parlé de quelque chose. Et à ce moment-là, quelqu'un vient et dit genre bonjour et essaie de me donner sa main, serrer ma main. Mais c'est une conférence islamique, subhanallah, et tu viens ici, tu dois. Tu peux pas donner ta main pour serrer. Si tu connais un petit peu les customs en Malaisie, on donne pas la main. Et du coup, quand il m'a donné la main, je regardais ses mains, j'ai pas donné ma main. Si c'était un Français en France, je pourrais donner ma main, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, il faut connaître les règles dans les différentes conférences. Du coup, j'ai pas aimé ça. Et là, je fais, tu sais, comme Arturo style, like the Turkish style, en mettant ma main
Arthur
sur mon cœur, tu vois. Et quand tu vois
sur la
ça,
poitrine.
c'est ça, sur ma poitrine. Et quand je fais ça, la personne, il fait genre namaste, genre Indonesian Indian style of, saying hello. Euh,
Ok, trop
le,
marrant.
le, le symbole de, ouais, c'est trop marrant. Du coup, je regarde. Mais après, la personne ressemble à un Chinois plutôt, mais il fait ça. Du coup, je me dis, ah, peut-être Indonésien. Et c'était tout. Et après, il me dit, oui, t'es pas malaisienne, tu viens d'où? Je dis, oui, excusez-moi, mais t'es qui? Et apparemment, c'est l'ami de mon partenaire avec qui j'ai parlé. Il est aussi un start-up dans la finance islamique. Et après, je dis, oui, voilà, je viens de France. Et il me parle un petit peu en français. Je dis, ah, tu parles français? Il me dit, oui, je suis. Il est comment dire, vice president, VP, chez Société Générale en Indonésie, avant justement de commencer son entreprise. Et comme c'est quelque chose que je connais, je dis, ah, OK. Et après, en plus de Société Générale, j'ai amélioré mon français en faisant mes études de MBA à l'INSEAD. Du coup, l'entreprise française et l'école française. Du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que moi aussi, je voulais faire mon doctorat à l'INSEAD, Inch'Allah. J'ai toujours l'envie de le faire d'ailleurs. Du coup, on a commencé à parler de tout ce qui est les études, etc. Et après ça, subhanallah, après 6 mois, ça devient mon mari par le moyen de ce qu'on appelle Taarouf. Peut-être tu connais Taarouf?
Taarouf, non.
Oui, voilà. Moi, je ne connaissais pas non plus. Et en Indonésie, en Malaisie, il s'appelle ça Taarouf, c'est-à-dire Islamic way to get to know each other. En fait,
Ok, ouais. En arabe, oui,
voilà.
c'est ce que ça veut dire, oui. Ok.
Voilà. Du coup, c'est pas genre boyfriend-girlfriend, c'est justement poser des questions logiques et importantes avant de se marier. Et moi, j'avais pas
Taarouf,
du
oui.
tout, voilà, j'avais pas du tout ce genre d'objectif avant, mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, après cette conférence, la personne, il s'appelle d'ailleurs Dima, il m'écrit un message disant, oui, ça fait plaisir de vous rencontrer, etc. Et c'était un peu tard. C'était, je pense, 11 h de nuit. Et moi, j'aime pas
Ouais.
répondre aux gens à cette heure. Mais par contre, comme c'était l'ami de mon partenaire, je voulais pas aussi changer, en fait, donner une mauvaise impression en ne pas répondant à quelque chose. Après, je lui ai dit, écoutez, Moi aussi, ça me fait plaisir, mais s'il vous plaît, n'écrivez pas plus à cette heure-là parce que je vais jamais répondre après ça. Du coup, quand j'ai dit ça, il me dit, excusez-moi, mais j'aimerais bien t'expliquer. En fait, peut-être, t'aimes bien être plutôt clair et direct, je vois ça. Ben, j'aimerais bien être clair avec toi. En fait, je pense, je suis impressionnée par vous et par, comment dire, par les commonalités de pensée, en fait, choisir la finance islamique et venir en Malaisie. Je pense que c'est assez courageux. Et est-ce qu'on pourrait nous connaître plus avec Taarouf? Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Taarouf. Du coup, je demande qu'est-ce que c'est le Taarouf. Et quand il m'a dit ça, je dis OK. Mais subhanallah, quand je dis OK, je suis, voilà, je suis 100% sûre que ça ne va jamais marcher.
C'est pas mal.
Parce que ben, je viens de finir ma fac, je viens de commencer un travail qui m'excite, qui est super intéressant et dans un pays que j'aime beaucoup et qui est la Malaisie. Bien sûr que je ne vais pas changer mes plans, c'est ce que j'ai pensé, subhanallah. Et là, quand Allah subhanallah a notre plan, et du coup, un mois de conversation, ça se voit très bien que, subhanallah, nos familles et tout est, tout peut, comment on dit, tout peut s'arranger bien parce qu'on a la compréhension, etc. Mais malgré le fait qu'on vient de différentes cultures et pays, etc. Et subhanallah, après 2 3 mois, on déjà commence à planifier notre mariage. Et voilà, maintenant, alhamdoulillah, ça fait 2 ans et demi. Et on a un petit bébé qui aura 1 an dans 2 semaines, inshallah.
Mashallah,
Alhamdoulillah.
mashallah, quelle histoire. Ah, comme quoi, on sait jamais d'où ça vient. Hein.
Oui, c'est ça.
Mais trop marrant l'histoire, la rencontre et comment ça s'est terminé. Ok, et du coup, lui est indonésien et c'est ce qui t'a amené à partir en Indonésie?
Oui, ben justement, en fait, mon plan était toujours continuer de travailler en Malaisie, mais comme ben, après le mariage, c'était comme c'était en plus Taarouf, du coup, on ne sort pas ensemble, on fait, ben, c'est pas du tout comme dans la. Comment dire, dans le
Culture.
copinage, dans la culture conventionnelle qu'on connaît, tu vois, il fallait vraiment plus connaître parce que, en tant que les gens mariés, ça pourrait être bizarre de toujours continuer à vivre en distance. Et du coup, j'ai pris la décision de partir en Indonésie. Et en Indonésie, j'ai, ben, après 6 mois de vivre en Indonésie, j'ai trouvé un travail qui est aussi dans l'industrie des startups, mais en collaboration avec Google Launchpad. Et c'est justement une entreprise de accélération qui travaille très proche avec le bureau présidentiel, en fait, de l'Indonésie. Du coup, c'était une très belle opportunité pour moi d'ouvrir des différentes portes et créer mon propre network en Indonésie, parce que bien évidemment, avant, c'était plutôt mes partenaires depuis la Malaisie qui travaillent en Indonésie aussi, mais s'ils ne sont pas des vrais Indonésiens, en fait, ben, ils ne sont pas des résidents ici qui connaissent tout, qui connaissent l'écosystème. Et alhamdoulilah, grâce à ce travail, d'ailleurs, l'entreprise s'appelait Digital Raya. Raya, ça veut dire que tu connais, c'est plus a celebration or like a big opening, n'est-ce pas? Et du coup, Digital, c'est Digital Raya. Du coup, Digital Raya, c'était très bien parce qu'on était en partenariat avec McKinsey, UBS, attends, McKinsey, UBS et Google, les 3 grandes entreprises. Et on créait des parcours pour nos programmes d'accélération. Et moi, j'étais project and product manager d'ailleurs pour le programme d'accélération qui s'appelait Simona Ventures ou Simona Accelerator. C'est juste le nom, mais en fait, la spécificité, c'est que on essaie de vraiment travailler avec les femmes entrepreneurs de la PAC. En fait, genre Women Empowering Program.
Asia-Pacifique,
C'est
en
ça.
Asie.
Oui, en Asie. Et alhamdoulillah, c'était très intéressant. La première collaboration, c'était de ce programme d'accélération, c'était ensemble avec Gojek. Tu connais Gojek, n'est-ce pas? C'est
Ouais.
Unicorn de
Ouais, grosse
l'Indonésie.
entreprise. Ouais.
C'est ça, oui. Ça s'appelait Goj Accelerate. Du coup, j'étais là-bas, j'ai fait ça. Et à la fin de mes, je pense que un peu moins d'un an, déjà, c'était la pandémie qui commençait. Et en plus, j'étais enceinte. Et je me suis dit que, et comme ça engage beaucoup de meetings, même si ça changeait vers le digital, c'est toujours un peu fatigant. En plus, mon dernier trimestre de. Justement avec mon bébé, il fallait mieux de se préparer pour avoir un bébé parce que je connaissais rien, bien évidemment, et ma mère, elle n'est pas avec moi, et il fallait que je fasse la recherche, etc. Je voulais me concentrer sérieusement sur la cause de devenir une mère, et j'ai décidé de quitter l'entreprise, malheureusement, parce que c'était très intéressant, mais ils m'ont dit, bien sûr, que les portes sont toujours ouvertes. Mais malgré que je pensais que je vais revenir là-bas après peut-être quelques mois de naissance de mon bébé, ça se passe qu'il y a plusieurs autres facteurs dans le monde et aussi dans ma vie qui fait naissance à mon nouveau projet qui est maintenant OMAC sur lequel je travaille. En fait, ce qui se passe, c'est que comme je suis Ouïghour, maintenant il y a plus d'oppression qui se passe en Chine. Les camps de concentration avec millions d'Ouïghours oppressés et aussi ils sont utilisés pour les comment dire forced labor
Travail forcé, oui.
voilà qui font qu'ils ont utilisé pour le travail forcé par des très grands manufacteurs en Chine et des très grandes entreprises spécifiquement les entreprises dans le de l'industrie textile, ils sont engagés dans tout ça. Et c'est très, 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 très triste en fait, parce que spécifiquement pour le coton, le meilleur coton du monde, il vient de Xinjiang. Et comment moi je l'ai appris, c'est que chaque fois quand je vais au Japon, j'achète, tu sais, des. Oh my gosh, c'est très marrant en fait, j'ai oublié les mots très, très simples en français comme towel.
Les serviettes.
Les serviettes. Au Japon, j'achète les serviettes Imabari. Imabari, c'est justement une ville en Japon où ils sont spécialisés dans la technique de création des serviettes. Et même les grands hôtels de 5 étoiles, ils achètent leurs serviettes chez à Imabari, ou depuis Imabari. Et du coup, quand je faisais ça cette fois, j'ai appris que Imabari, il importe le coton de Chine, de Xinjiang spécifiquement, parce que c'est où le meilleur coton est né. Et après, si tu te demandes comment et pourquoi, tout d'abord, bien sûr, la terre, elle est spécifique, il y a justement le soil, etc. Et la deuxième chose, c'est il est handpicked. Il
Ok.
est, voilà, c'est fait à la
Manuellement,
main.
il est pris manuel, ouais, à la main. Ok.
Voilà, manuellement. Et ça, bien sûr, ça fait que ils sont pas, il y a pas de, comment dire, they're not damaged, et ils sont de bonne
Sont
qualité.
pas, ouais, ils sont pas abîmés. Ouais.
Voilà, ils sont pas abîmés et ça aide à créer, créer la meilleure qualité de coton, voilà, et de la matière et après le importer au Japon. Et quand j'ai appris ça. Et quand je comprends ça, après, statistiquement, 80% de coton du monde vient de Chine et 90% de ce coton vient de Xinjiang, subhanallah. Et imagine la quelle quantité, imagine combien de Ouïghours sont forcés à faire ça. Et quand j'apprends ça, je me dis, mais c'est hyper, hyper hypocrite de continuer à acheter les marques qui sont manufacturées et faites en Chine. Et pas seulement ça. Même les choses qui ne sont pas manufacturées en Chine, ils emportent au moins le coton depuis Chine parce que c'est moins cher. Et tout ça me fait penser que moi, je ne peux pas faire ça parce que mon enfant, il est moitié Ouïghour et un enfant exactement comme lui en Chine, il est forcé manuellement faire ce genre de travail. Et je veux pas faire partie de ça, je veux complètement condamner tout ça. Du coup, je commence à faire des recherches des marques indonésiennes qui sont pas faites, qui n'utilisent pas le travail ou comment on dit, les matières
Du coton de
chinoises.
Chine, ouais.
Voilà. Mais malheureusement, tout le monde fait au moins quelque chose qui est connecté avec la Chine. Et ça m'a poussé de créer quelque chose qui ne sera pas connecté avec la Chine, qui va en fait créer, en fait montrer que la qualité indonésienne est bonne et beaucoup mieux que la qualité chinoise, et qu'on peut en fait considérer l'Indonésie comme un pays de travail qui sera moins cher, mais qui pourra aussi être éthique, c'est-à-dire il faut contrôler le supply chain, mais en même temps on pourra avoir des belles produits qui sont mignons, etc. Du coup, la compagnie s'appelle Omar. Omar, ça veut dire mignon en ouïghour. Les premiers produits qu'on crée, ce sont des. On appelle ça swaddles. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est justement pour. You said swaddling the baby. Quand ils sont nés, il faut les wrap them well pour qu'ils se sentent cosy. Voilà.
C'est des sortes de serviettes ou je ne sais pas comment on appelle ça, de tissus qui permettent d'enrouler le bébé pour qu'il soit
C'est
confortable.
ça. Voilà, exactement. Les swaddles et les blankets, les couvertures, on les fait en utilisant le coton bio 100% certifié avec les certificats internationaux. Et
À base de
on les
bambou, il me
design
semble.
à base de bambou. Parce qu'en fait, le coton à base de bambou, il est beaucoup plus, en fait, il est beaucoup plus durable. Il utilise moins d'eau. Il est antibactérial, etc. En fait, il y a plein de qualités qui sont beaucoup mieux que chez le coton, ben juste le coton naturel au 100%. Et c'est pour ça, en fait, on a choisi coton en bambou. Et les designs, comme je mentionnais, on fait avec les designers qui représentent l'ethnie. Par exemple, la première collection, on fait la collection ouïghour, c'est-à-dire les designs, ils sont inspirés par la culture ouïghour, leurs traditions, etc. Et pour les créer, on lance une compétition sur Internet en utilisant les communautés ouïghours globales, en leur disant, voilà, on a cette compétition, ça vous intéresse, si vous voulez être partie de OMAC et créer des vêtements, des designs pour les enfants. Voilà, vous pouvez participer. On a un mois pour qu'ils puissent créer des designs à nous envoyer. Et alhamdoulilah, plus de 100 personnes étaient intéressées, 40 personnes étaient sélectionnées, et la personne qui a gagné, c'était une Ouïghour d'Australie. Il est moitié grec, moitié Ouïghour, mais né en Australie. Et c'est elle qui a créé nos premiers dessins de patterns, en fait des motifs qu'on trouve sur nos produits. Et l'objectif, en fait, de OMAC, c'est vraiment faire quelque chose de en fait durable, mais dans les différents niveaux, c'est-à-dire environnemental. On utilise les matières naturelles et recyclables, etc. Deuxième, c'est engager la communauté en deux parties, c'est-à-dire engager les artistes, les créatifs ouïghours pour créer nos produits. Et après ça, on aussi s'engage avec la communauté en besoin, c'est-à-dire les ouïghours en besoin, pour leur donner les procédés depuis nos ventes. Voilà. Et du coup, la troisième chose, c'est vraiment pousser l'industrie, en fait, populariser l'industrie est durable, spécifiquement pour les vêtements d'enfants en Indonésie. Pourquoi les vêtements d'enfants, par exemple? Parce que, à mon avis, et aussi d'après la discussion avec nos plusieurs advisors, on comprend que si on commence par les enfants, si on commence par éduquer les enfants, ben, en leur montrant qu'est-ce qui est la qualité, qu'est-ce qui n'est pas, ou qu'est-ce qui est durablement fait, ou qu'est-ce qui est éthiquement fait. Et depuis l'enfance, ils vont déjà avoir ces standards. Et quand ils grandissent, c'est pas difficile pour eux de faire la préférence à une marque, à une compagnie qui est éthique, durable et sociale, que une marque qui exploite les gens ou qui exploite l'environnement. Mais pour nous, comme toi et moi, par exemple, c'est un peu plus difficile parce qu'on s'est habitué au budget qu'on a pour les vêtements, au style, ou la manière qu'on change, ou la fréquence qu'on change nos styles, nos vêtements, tu vois. C'est difficile pour nous, mais quand même, on essaie. Mais par contre, pour les enfants, je pense, si on commence dès maintenant, dès leur petit âge, ça sera, inshallah, plus facile de créer des humains beaucoup plus responsables qui peuvent prendre soin, pas seulement de eux-mêmes, mais aussi de l'environnement, inshallah.
Trop bien, trop bien. Et du coup, là, tu vas commencer cette aventure il y a environ 6 mois, c'est ça?
Là, maintenant, ça fait un peu plus, je pense que ça fait 8 mois maintenant. Et on a fait les commandes, les précommandes en ligne. Et alhamdoulillah, on a eu des demandes. Mais c'était vraiment tester, voir s'il y a des gens intéressés. Mais c'était pas, on n'a pas fait un marketing, on n'a pas fait, même on n'a pas eu de photoshoot commercial encore. C'était vraiment voir s'il y a des gens qui soutiennent ce genre d'idées. Et alhamdoulilah, il y en a. Et maintenant, notre précommande, elle est en cours de production. Inch'Allah, à la fin de ce mois, on va les envoyer. On a des gens qui ont précommandé depuis les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Australie, la Malaisie, le Singapour. Et alhamdoulillah, du coup, c'est intéressant de voir quelque chose qu'on veut faire pour l'Indonésie, mais il y a des gens qui sont intéressés partout dans le monde. Et après ça, inshallah, on veut se concentrer vraiment sur le marché indonésien. Comme maintenant, cette production, inshallah, il se passe bien. On aimerait bien travailler pour une nouvelle collection avec des designers ou des illustrateurs indonésiens. Pour vraiment se concentrer sur le marché indonésien. Comme tu vois, comme tu le sais, 200 millions personnes, c'est un très grand marché. Du coup, c'est ici qu'on doit nous faire connaître d'abord.
Ok, trop bien. Donc, omac.design, le site internet. Des très beaux modèles, je suis sur le site internet en ce moment même. Du coup, vous livrez
Merci
partout.
beaucoup.
Bon, n'importe qui peut commander.
Oui, n'importe qui peut le commander. On fait les shipments à l'international aussi. Mais bien évidemment, d'ailleurs, oui, comme en Indonésie, on n'a pas de compagnie d'export comme en Singapour. Par exemple, en Singapour, si tu es un commerce, tu fais un contrat avec une compagnie d'export et tu peux avoir free worldwide shipping. Partout dans le monde. Mais par contre, en Indonésie, malheureusement, il n'y a pas de service comme ça. Il y a beaucoup de difficultés avec l'export. Et à
Livraison.
cause de ça, oui, il n'y a pas de service durable. Et à cause de ça coûte un petit peu plus cher. Mais bien sûr, s'il y a des gens qui le veulent toujours et ils le commandent. Mais après, Inch'Allah, j'espère vraiment qu'on pourra travailler depuis Singapour pour offrir vraiment le service, en fait, nos produits à la clientèle à l'international, Inch'Allah, un jour.
Inch'Allah. Ok, trop bien. Et du coup, vous aidez la communauté Ouïghour à plusieurs niveaux, donc en permettant d'avoir des alternatives dans les produits utilisés pour éviter le circuit chinois et
C'est
éviter
ça.
d'utiliser les produits qui ont forcé les travailleurs, notamment les Ouïghours, à produire ces produits-là. Il me semble que vous comptez reverser une certaine somme aussi pour la cause Ouïghour, ou je me souviens plus.
Oui, c'est ça exactement.
Oui.
En fait, on essaie de choisir des causes qui sont connectées avec les enfants. Comme c'est une entreprise qui crée les vêtements d'enfants, on aime bien, on aimerait bien s'associer avec les enfants toujours, même pour les causes qu'on fait les donations. Et Inch'Allah, après, bien sûr, on va faire un petit rapport de ce qu'on va faire, mais pour l'instant, c'est ce qu'on considère, c'est aider aux enfants à dans les orphelinats en Turquie. Malheureusement, ils sont considérés comme les orphelins, mais en fait, ils ont leurs parents, ils sont tout simplement dans les camps de concentration et les enfants, ils n'ont pas de chance de les voir. Maintenant, il n'y a personne qui peut prendre soin d'eux. C'est pour ça ils ont pris charge par les orphelinats en Turquie. Il y en a plus de 500 enfants comme ça.
Ok. J'ai une question d'une auditrice qui demande comment soutenir la cause de nos frères et sœurs ouïghours pour voilà, les Français ou ceux qui écoutent le podcast. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour soutenir la cause ouïghour?
Alors, tout d'abord, Vous pourrez juste vous informer et partager ce qui se passe avec les Ouïghours sur vos réseaux sociaux ou avec vos amis. Et si vous voulez apprendre plus à propos de cause, il y en a quelques références. Par exemple, toujours aujourd'hui, tout le monde utilise Instagram. Du coup, j'aimerais bien vous conseiller de suivre les comptes The Tarim Network. Je vais partager avec toi, Abdelrahman, après.
OK.
Le nom, mais The Tarim Network, c'est des jeunes Ouïghours de diaspora des pays anglophones qui ont commencé ce network pour partager les histoires des Ouïghours, des jeunes Ouïghours dans le monde et aussi partager des causes et des informations auxquelles on peut contribuer. Par exemple, l'une des dernières causes qu'ils ont partagées, les deux par exemple, pendant le mois de Ramadan, la première c'était la conservation de la langue ouïghour. Ils ont créé des workbooks, des livres d'apprentissage de la langue ouïghour aux gens de diaspora. Par exemple, même moi, en tant que ouïghour, je ne parle pas ouïghour autant bien parce que je n'ai pas étudié dans une école. Je le connais vraiment, tu vois, la langue de. La langue de communication, je l'ai, je peux comprendre, mais ce n'est pas au niveau académique, par exemple. Du coup, c'est difficile. Et moi, en plus, je suis née dans une communauté où il y a plus d'Ouïghours. Par exemple, mon enfant, qui est moitié indonésien, moitié Ouïghour, il aura encore moins de, comment dire,
Exposure, exposition.
voilà, moins d'exposition à la culture et la langue Ouïghour. Du coup, par exemple, aux enfants comme lui, ça va aider de. D'apprendre sa langue depuis la naissance, depuis les jeunes âges, conserver son identité ouïghour. Du coup, le Tarim Network pense que c'est une des choses à qui il faut, une des causes les plus importantes pour les Ouïghours de conserver leur identité malgré ce qui se passe en Chine. Et la deuxième, c'est aider aux enfants qu'ils étaient traumatisés. Par ces camps de concentration. Par exemple, ces 500 enfants qui sont dans des orphelins, maintenant, ils n'ont pas de possibilité de connaître ce qui se passe avec leurs parents ou communiquer avec eux ou bien les voir et même aller en Chine parce que c'est dangereux. Du coup, ils ont plein de maladies post-traumatiques. La deuxième cause que Tarim Network soutient, c'est aider ces enfants comment dire, récupérer par l'aide médicale et psychologique. Voilà.
Oui, ok.
Et la deuxième chose que vous pouvez faire, bien sûr, c'est y a des pétitions à signer. Une des personnes qui travaille, en fait, un des politiciens français qui travaille souvent sur les causes du Dubourg est assez comment dire
Actif.
voilà assez actif, c'est Raphaël
Ouais, je le
Glucksmann.
suis. Hein.
Ouais, voilà. Du
Très
coup,
actif.
lui, il partage. Oui, c'est ça. Du coup, ça, ce qu'il dit, en fait, c'est la cause laquelle il choisit de se concentrer plus par rapport aux autres causes. Du coup, je pense que c'est bien en sorte qu'on peut apprendre plus de choses à propos des Ouïghours. Et bien sûr, la dernière chose que j'aimerais bien en tant qu'Ouïghour, peu importe, en fait, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ils découvrent la problématique avec les Ouïghours, ils commencent à sentir vraiment mal et tout, mais ils font rien pour soutenir d'autres causes. En tant qu'Ouïghour, moi, j'aimerais bien juste dire que c'est pas parce que nous sommes Ouïghours, c'est parce que nous sommes humains. Et peu importe c'est qui souffre, on doit toujours aider à ceux qui souffrent, même si ce sont les Ouïghours ou les Palestiniens ou les autres, n'est-ce pas? Voilà.
Oui. Et aussi, ouais, j'imagine faire attention aux produits qu'on consomme, essayer d'éviter au maximum les produits chinois et en particulier ceux qui sont issus du travail forcé.
Oui, 100%. D'ailleurs, Raphaël Glucksmann, il a partagé le liste des entreprises qui sont engagées. En fait, c'est presque tout ce qu'on utilise, en fait, Abdelrahman, pour dire la vérité. Regarde, nos iPhones, ils ont fait en Chine. Et la manufacture d'iPhone, elle aussi travaille avec les camps de concentration. Zara, Gap, H&M. Et il y en a encore plus en plus, tu vois. C'est très difficile, mais ce qu'on peut faire, au moins arrêter de soutenir ces entreprises. Voilà, ça, ce qu'on peut faire. Avant qu'ils changent, si bien sûr ils changent leur supply chain, après ça, bien sûr, on pourra réutiliser leurs produits. Mais pour l'instant, moi, par exemple, j'arrête même Uniqlo. Ils ont aussi des. Ils font beaucoup de choses en Chine. Du coup, j'essaie de ne pas acheter des choses chez Uniqlo.
Ok, ah, c'est vrai qu'il y a une liste très longue hein.
Très lent.
Entre tout ce qu'il faut boycotter d'Israël et de la Chine.
Au maximum de ce
Ça.
que vous pouvez, c'est déjà bien. Et peut-être prioriser les marques françaises ou les marques locales du pays où vous trouvez.
Bien sûr. Barclafic, pour tes réponses, Xélia, on a fait un peu le tour des questions. Là, le temps nous est compté là pour terminer assez rapidement. Donc, je vais essayer de finir assez vite. Est-ce que tu as une routine en général, que tu tiens du matin ou une routine particulière?
Quand on écoute des podcasts, on écoute les histoires de quelqu'un, on aimerait bien apprendre quelque chose. Et avant, j'étais quelqu'un de perfectionniste, j'avais toujours les routines parfaites, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien montrer que je ne suis pas parfaite du tout. Pourquoi? Parce que j'ai appris quelque chose pendant ces dernières années. Numéro un, la productivité dont on parle dans les livres, la productivité qui est propagandée par des médias et aussi par des gens qui sont, comment on dit, du succès, etc. C'est pas toujours vrai parce que la productivité, ça, c'est pas la même chose pour tout le monde. Quelqu'un est plus lent, quelqu'un est plus vite, quelqu'un peut faire tout pendant un jour, quelqu'un va faire tout ça pendant une semaine. Et ce que j'aimerais bien dire, c'est que le plus important, c'est d'avoir les petites choses dans ta vie qui te font, qui te fait, qui te font sentir accompli. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, me réveiller tôt dans le matin et faire ma prière de Fajr, c'est quelque chose qui me fait heureuse et accomplie. Si j'ai raté ma prière de Fajr, par exemple, ou si je me suis réveillée juste 2 minutes avant ça, je me sens pas bien toute la journée. Je me sens pas comme si, je sais pas, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais je ne suis pas heureuse toute la journée. Du coup, ce genre de choses, j'ai par exemple gardé. Mais il y a eu d'autres choses, par exemple, comme après Fajr, avant, j'aime bien prendre mon café et faire une course. Par exemple, je courais pendant 45 minutes ou 1 heure ou plus. Avant, je faisais toujours ça, mais depuis que je suis enceinte, ben, ça fait déjà mon bébé, il aura 1 an. Du coup, être enceinte et tout ça, c'est encore 1 an, on va dire. Ben, à peu près 2 ans maintenant, je fais plus de ça. Et je ne me juge plus pour ça non plus, tu vois, parce que je me suis dit, oui, maintenant je suis dans une situation où je ne peux pas être autant productif qu'avant. Du coup, je vais prendre mon temps de me mettre en forme et je vais recommencer cette course quand je me sens bien. Voilà. Du coup, ce que j'aimerais bien dire, c'est que il y a des petites choses qui sont connectées à mes priorités, c'est-à-dire à ma religion, ma spiritualité, ma santé et aussi ma famille. Ce sont des choses que je priorise et dépendant de ça, je planifie ma journée.
Et d'où est-ce que tu puises ton énergie? Qu'est-ce qui te motive?
Justement, ce sentiment d'accomplissement. Est-ce que c'est
Accomplissement.
accomplissement? Oui,
D'accomplissement, ouais.
accomplissement. Voilà, d'accomplissement. C'est-à-dire, si je me réveille à l'heure exacte, de la prière et je fais ma prière, par exemple, je la fais bien, je la fais complètement et alors, et je me sens bien, ça me donne de l'énergie de continuer à de faire quelque chose de bien. Après ça, je suis motivée de préparer le petit déjeuner pour mon enfant et mon mari, par exemple. Après ça, je suis motivée de prendre soin de moi, tu vois. Genre, ce sont ma spiritualité vient numéro un parce que si je le fais bien, ça me donne de l'énergie, de motivation de continuer tout le reste.
Trop bien.
Voilà, je fonctionne comme ça.
Est-ce que tu as des recommandations de livres, de documentaires? Certains demandent même si tu en as qui peuvent permettre de mieux comprendre la population ouïghour ou bien des références plus générales si tu veux.
En fait, il y a quelques activistes ouïghours que j'aimerais bien conseiller à suivre. Comme j'ai dit, à part de Tarim Network, il y a aussi World Uyghur Congress. Uyghur Project. Et aussi, en fait, si on suit Tarim Network, ils partagent plein de différentes pages à suivre aussi. Et du coup, ça, c'est ce que j'aimerais bien conseiller. Parce que pourquoi Tarim Network aussi, les gens qui nous écoutent, ce sont des millennials et Gen Z. Du coup, ça fait, ce sont des écouteurs, des auditeurs plutôt jeunes, et aussi ils aiment bien écouter un langage plutôt simplifié aussi et trendy, avec les informations, les comparaisons qui conviennent, qui font partie de leur vie, de quotidien. C'est pour ça que je recommande cette page. Après, pour ce qui concerne la productivité, en fait, comment dire, la vie d'un musulman ou d'un croyant en général, il y a deux livres qui m'ont aidé vraiment quand je suis venue en Malaisie. C'est ce que j'ai lu. Le premier, c'est The Productive Muslim. C'est un petit peu lourd en termes de productivité. Voilà, Mohamed Fares. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, vous aurez une perspective de comment les autres, ils peuvent planifier leur jour. Vous pouvez prendre ce que vous aimez, vous pouvez ne pas prendre certaines choses. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez un nouveau méthode de comment faire, comment planifier ton jour en tant qu'un musulman. Et c'est bien aussi, ça roulait beaucoup aux musulmans français, parce que c'est un musulman américain qui l'écrit, qui n'a pas beaucoup de aussi facilité islamique aux musulmans dans sa vie quotidienne. Et le deuxième livre, c'est Green Dean. Green Dean, ça parle plus de la vie environnementale, comment être durable, comment prendre soin de la planète en prenant soin de toi, et aussi en soyant un vrai khalif d'Allah. Khalif, ça veut dire servant, c'est ça? Servant ou steward?
Successeur. Successeur.
Voilà, successeur, ouais. C'est ça. Un successeur de cette planète, un successeur d'Allah. Et j'aime bien ce livre parce que aussi on découvre des nouvelles méthodes des musulmans du monde, comment ils le font, comment ils s'engagent, comment ils se mettent dans l'activisme pour préserver la planète, ce qui est très important parce que la planète, c'est notre mosquée aussi, c'est notre mosquée aussi, et on doit prendre soin d'elle aussi. Et je pense que c'est très important avant de quand on veut être plus durable, arrêter le fast fashion, manger plus sainement, etc. Je pense que c'est important de connaître les bases, et Green Bean, alhamdoulilah, donne ses bases, à mon avis.
Ok, avec l'Afrique, je te remercie beaucoup, Ghizalia. Dernière question, pour te suivre, te contacter, les auditeurs peuvent faire comment?
Oui, en fait, je suis très active sur Instagram. Je lis mes emails tous les jours. Du coup, mon email, c'est ghizalia.marisova. @gmail.com .com. Et après, mon Instagram aussi, c'est @guzemi. Je serais très contente de voir les gens qui sont intéressés. S'il y a des questions par rapport au stage ou les échanges, etc., je suis toujours contente de donner des avis et de conseiller, spécifiquement si ça concerne les industries où j'ai d'expertise. Voilà. Pas de souci.
Je mettrai tout ça en description. Je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un parcours vraiment super intéressant, franchement. Je ne l'ai pas dit, mais il me semble que tu as, 20, on n'a pas dit, 27 ou 28 ans, je ne sais plus.
Oui, j'aurai 28 ans cette année.
28 ans cette année, donc encore 27 ans. C'est un parcours vraiment impressionnant pour à cet âge-là, on va être honnête.
Merci. Et en tout cas,
j'espère vraiment que le reste de ton parcours, Inch'Allah, sera tout aussi intéressant et passionnant et impressionnant, Inch'Allah.
Amin, Inch'Allah. En fait, j'aimerais bien te remercier de m'avoir contacté et de m'avoir donné cette opportunité de partager mon parcours avec les autres Français musulmans. Je pense que ce que tu fais, Abdelrahman, c'est vraiment une très belle chose, et Inch'Allah qu'Allah te facilite en ça, et qu'il t'offre aussi encore plus de portes, encore plus de portails de partager, pas seulement les histoires des autres personnes, mais aussi partager ton histoire, parce que, mashallah, tu te trouves à Singapour avec ta femme, et je suis très intéressée d'apprendre plus aussi, Inch'Allah.
Peut-être bientôt, Inch'Allah.
Inch'Allah. Ok.
Merci, Barakallah Fik. À bientôt.
À
Salam
bientôt,
alaikum.
salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah.
J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.